France Culture.
Tiens.
Merci.
Merci à toi. Il y a de l'écho, non?
Ouais. Tu veux chanter?
Ouais.
Ça donne envie de chanter.
Tu veux que je chante?
Ouais.
Alors, comme par hasard, je suis malade.
Ah, comme par hasard. Love in outer space. Enchantée, Marie. Bienvenue. Il faut y aller, d'accord. En effet, il faut pas tarder.
J'avais un doute sur le hugo, effectivement.
France Culture.
Est-ce que c'est bien le
d'accord.
Le passage qui me plaît.
Ok.
Le book club.
Non, moi, je vais pas lire, donc. C'est vous qui lisez. Hein.
Oui, je sais.
Le micro, il vous dérange pas comme ça ou...
Un essai de voix, bien
dans
sûr.
Dans la bibliothèque ouais, de Birds on a Wire.
Allô, allô. Alors, je vais lire un petit bout.
C'est super.
Merveille.
C'est vrai. Des gens qui ont plusieurs talents, faut leur dire.
Marie Richeux.
L'extincteur, c'est nécessaire ou...
Quand on fait de la musique avec quelqu'un depuis de très nombreuses années, se constitue-t-on consciemment ou inconsciemment une bibliothèque commune? C'est en 2012 environ que commence l'aventure de Birds on a Wire, le duo que vous formez, Dom Lanena et Rosemary Stanley, avec lequel vous revisitez, violoncelle, voix et autres instruments, un répertoire allant de chansons traditionnelles aux grands titres de Leonard Cohen, Violetta Parra, Jacques Brel ou le Maloya. En réalité, de disque en disque, vous constituez une véritable bibliothèque musicale relue par vos soins. À l'heure où paraît votre nouveau disque, Les Nuées Ardentes, titre emprunté à un poème d'Anna de Noailles, au cœur duquel bat l'incandescente adolescence, nous nous sommes demandé quelle lectrice vous étiez et quelle forme pourrait prendre une bibliothèque à deux voix qui naviguerait d'une sensibilité à l'autre. En réponse, Victor Hugo s'en mêle à Julio Cortázar, qui lui-même répond à Alexandre Papadiamantis, lequel est suivi de Jorge Amando, qui ouvre le pas à Jules Michelet, tout un programme que des hommes. Sans compter que le livret de votre disque ouvre une autre bibliothèque, celle de l'histoire de la peinture, avec laquelle vous jouez allègrement. On va donc aller de rebond en rebond, tel un pizzicato sur des cordes. Merci beaucoup Rosemary Stanley, merci Dom Lanena d'ouvrir la bibliothèque de Birds on a Wire pour le Book Club de France Culture.
Merci.
Bonjour à toutes les deux. On va commencer par parler de votre rapport à la lecture en général, avant de plonger dans les extraits que vous avez choisi de partager avec France Culture pour parler d'une bibliothèque. Est-ce que l'idée d'une bibliothèque commune à vous deux, qui serait constituée par les années à cheminer ensemble, est une idée intéressante ou vous avez gardé vraiment bibliothèque chacune dans votre coin? Rosemary Stanley.
Alors, c'est tout à fait possible. Ces dernières années, je pense qu'on a eu des lectures communes, mais on a quand même, je pense, des bibliothèques très, très distinctes.
Et on partage beaucoup de choses. C'est vrai que le...
ça peut rester peut-être à part.
C'est vrai qu'on... Il y a certaines choses, des poèmes notamment, qu'on s'envoie régulièrement, qu'on trouverait chouette de mettre en musique, qu'on s'envoie, voilà, de temps en temps. Mais les livres, parfois en tournée, on s'emprunte les livres l'une à l'autre, mais...
Mais c'est un réflexe que vous avez, par exemple, Dom Lanena, de lire un poème et de l'adresser, juste une capture d'écran, par exemple, à Rosemary Stanley.
C'est arrivé à une époque, ouais. Il y a eu un moment où on cherchait beaucoup de poèmes à mettre en musique. Donc, ouais, on s'envoyait des choses mutuellement.
Bah justement, à l'époque d'Anna de Noailles, on cherchait des femmes, justement, des visions de femmes qui parlaient de la guerre, voilà, pour pas avoir que des textes d'hommes. Et en fait, on se rend compte qu'en France, à cette époque-là, les textes de femmes sont assez rares, alors qu'en Allemagne, ils sont beaucoup plus nombreux, par exemple.
Et vous connaissez bien vous dites ça parce que vous connaissez particulièrement la littérature allemande ou c'est juste parce que France-Allemagne et la guerre?
Non, c'est parce qu'on cherchait justement à faire un pendant d'Anna de Noailles et on a trouvé qu'il y avait plus de femmes poètes à cette époque-là en Allemagne qu'en France, par exemple.
On parle d'Anna de Noailles parce qu'on l'écoutera tout à l'heure. Il y a un poème que vous avez mis en musique et puis il y a ces fameuses Nuées Ardentes dont on parlera aussi qui donnent le titre à votre disque. Mais si vous deviez décrire, Rosemary Stanley, votre propre rapport à la lecture et à quoi ressemble comme ça, en la dessinant à grands traits, votre bibliothèque, vous diriez quoi?
Boulimique, bordélique, foisonnante et pas, il y a pas, j'ai pas de règles en fait du tout. En fait, il m'arrive de lire des essais comme des romans. Il y a des choses que je me suis interdite pendant des années, comme Proust par exemple, et puis que j'ai découvert un peu aussi, bon, grâce à ma meilleure amie, mais aussi un peu à Laure Murat
et Anna de Noailles, qui était une immense amie de
voilà,
Marcel Proust,
mais que j'ai, voilà, pour la première fois, j'ai lu du côté de chez Swann cet été, et c'est vrai que c'est avec un immense plaisir. lire, par exemple.
Interdit pourquoi, vous savez ?
Parce que je pensais vraiment que c'était pas pour moi, que c'était trop intellectuel, que ça allait m'ennuyer, alors qu'en fait, pas du tout. Je trouvais que c'était plein d'humour, que c'était... Et une écriture incroyable pour moi. Je ne vais pas paraphraser.
Oui, on parle de Laure Murat qui a signé un magnifique texte qui s'appelle Proust roman familial. Vous commencez par dire boulimique. Est-ce que vous avez toujours beaucoup lu ?
Alors, j'ai eu des périodes où je lisais beaucoup et puis des périodes où je ne pouvais pas lire tant que je n'avais pas fini les livres.
Ok.
Donc, j'étais bloquée. Je pouvais avoir des périodes de vraiment de...
Comme dans les jeux vidéo, il fallait passer le niveau, quoi.
C'est-à-dire que je bloquais, j'avais un livre que je n'arrivais pas à finir et en fait, voilà, je ne pouvais pas commencer autre chose tant que je n'avais pas fini celui-là. C'était comme une règle. Et heureusement, je me suis débarrassée de cette règle. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit « Mais la vie est trop courte pour s'embêter avec ce genre de choses. »
Lis plusieurs livres à la fois, voilà. Pose-les si tu t'ennuies.
Exactement. Et c'est ce qui se passe, d'ailleurs. Voilà.
Si je peux juste préciser une petite chose par rapport à ça, c'est que quand on s'est connus, il y a donc 12-13 ans, Rosemary habitait dans un petit appartement du 18e et on ouvrait la porte et il y avait un long couloir qui était assez large pourtant, mais qui était absolument envahie de livres.
Ah,
on ne pouvait, enfin, c'était une mission de traverser. C'est les premières fois, je me souviens, j'étais quand même très impressionnée de me dire, ok, alors comment trouve-t-elle le temps
de lire en plus de tout ça.
Il y en avait vraiment partout.
Est-ce que vous avez grandi dans un endroit où il y avait des livres, Rosemary Stanley ?
Oui, mais avec un rapport à la lecture particulier, parce que ma mère était correctrice et elle lisait le journal tous les jours. Et par exemple, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire, lire le journal. Elle faisait sa revue de presse tous les matins. Mmh. Elle avait Le Monde, Libé, Le Figaro. Et elle lisait tous les matins son journal avec son thé. Et c'est vrai que j'étais complètement allergique au journal. Mmh. Le rapport au... Alors maintenant, je lis un peu plus le journal, mais c'est vrai que c'est... Mais du coup, la lecture, non, c'était...
Plus votre territoire, par conséquent.
Ouais.
Dom Lanena, est-ce que vous avez, vous aussi, vécu dans des maisons où il y avait des couloirs remplis de livres ?
Ouais, beaucoup, ouais. Ma mère est psychanalyste et écrivaine. Et elle est absolument passionnée de Proust, d'ailleurs.
Oui,
ça, c'est vraiment sa passion. Donc, je n'ai jamais lu Proust.
Merci, maman.
Et mon père est prof de philo, donc...
Oui, vous avez comme un petit bagage.
Oui,
mais parfois,
oui,
ça peut dégoûter, éventuellement.
J'ai mis un certain... Enfin, je m'y suis... Enfin, évidemment, enfant, je lisais beaucoup, et c'est mes parents qui m'ont appris à lire, mais j'ai eu besoin... Je suis partie chez mes parents assez tôt, et c'est à ce moment-là...
Pour faire de la musique.
Voilà, pour faire de la musique, oui. C'était pas du tout... On n'était pas fâchés, ni rien du tout, mais c'est à ce moment-là où je suis partie, où je me suis un peu... dit bon, je vais faire ma bibliothèque à moi, même si on répétait beaucoup les livres et que je leur en piquais beaucoup. J'étais pourtant à Buenos Aires, je me souviens, je faisais des allers-retours avec des valises remplies de livres que je ramenais à Buenos Aires.
C'est vrai.
Ça ne faisait aucun sens puisque après il fallait vraiment, bref, c'était ça pesait très lourd, mais j'ai eu besoin de quitter la maison pour prendre mon élan de lectrice, voilà, on va dire.
Et là, justement, vous mentionnez ces allers-retours, donc là avec Buenos Aires, Paris, mais de manière générale, on peut dire que votre vie, la musique que vous jouez aussi toutes les deux est très imprégnée d'une géographie extrêmement vaste. J'en donnais quelques coordonnées tout à l'heure, mais bah, c'est un des plaisirs de Birds on the Wire que de se promener dans une très grande bibliothèque. Mais est-ce que ça rend aussi compte de vos lectures, de vos goûts ? C'est-à-dire que, en effet, là, on va entendre tout à l'heure des textes qui sont rattachés à différentes origines, nationalités. Mmh. C'est aussi ça. Vous lisez, par exemple, dans différentes langues, Dom Lanena.
Oui. Pardon. C'est ce que je pensais au-delà des langues que je parle, mais
non.
Parce que c'est vrai que nous, on chante dans beaucoup de langues qu'on ne maîtrise pas aussi. Hein. On chante en russe, en bulgare,
en vietnamien.
Voilà. Alors, on ne lit pas en vietnamien, on ne lit pas en russe.
Ni en russe. Ok.
Mais on lit Rose, tu lis beaucoup en anglais. Moi, je lis beaucoup en espagnol. En fait, j'essaye même en étant ici, j'essaye vraiment de lire un maximum en portugais et en espagnol.
Mais pour pouvoir avoir dans cette langue-là quelque chose qui continuerait de s'augmenter de littérature, de vocabulaire, de finesse,
de façon de penser.
Pour plein de raisons, ça me rapproche aussi de mon pays, de ma culture. C'est aussi pour garder la langue, pour pas perdre, pour l'enrichir même, je dirais, pour réussir. Parce que j'écris beaucoup aussi en portugais, en espagnol, donc j'ai besoin de...
De la garder vivante, quoi.
Ouais, voilà.
Là, j'ai pas précisé qu'on était dans le studio 115, c'est pour ça que le son est un peu différent de nos bibliothèques d'habitude. Mais si vous deviez peupler, justement pour gérer l'acoustique, peupler ces murs de livres, il y aurait quoi si on était dans votre bibliothèque, Dom Lanena ?
Bah, y aurait beaucoup de littérature latino-américaine, ça c'est sûr. Y aurait tout Cortázar, déjà. Borges, Bio Cazares, Silvino Campo, et de la littérature brésilienne, et pas mal de choses françaises, beaucoup, beaucoup Marguerite Duras. Je sais pas, plein de choses différentes.
Et vous, Rosemary Stanley, vous avez dit aussi lire dans d'autres langues pour continuer d'embrasser d'autres visions du monde. C'est une des motivations d'aller lire dans d'autres langues?
Oui, ben moi j'ai l'anglais où alors effectivement ça permet de garder aussi d'autres façons de voir le monde, d'autres façons de penser.
Et quand vous dites anglais, c'est littérature britannique ou plutôt littérature américaine?
Les deux.
Ok.
C'est les deux. Il y a eu aussi un moment quand je tournais en Australie, j'aimais bien lire des polars australiens. Voilà, bon c'était. Mais oui, c'est essayer de garder en fait une ouverture sur qui puisse aussi enrichir ce qu'on fait un petit peu quand même.
Oui, d'ailleurs, en fait, là, on parle du projet Bird on a Wire, mais vous travaillez toutes les deux sur d'autres projets et la littérature est jamais complètement loin, en réalité. Non. Finalement, à vous suivre depuis des années, on se rend compte que les imaginaires littéraires sont assez proches des projets musicaux que vous travaillez.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense par exemple au Carmen que j'ai fait avec François Gremaud. C'est vrai qu'il y a une référence. Alors lui, ça raconte la première de l'opéra, mais moi, j'étais beaucoup, beaucoup sur la Carmen de Mérimée parce que je trouve que c'est un texte qui est assez méconnu et incroyable, qui raconte aussi beaucoup la situation des Roms à l'époque, qui n'a pas tant que ça évolué. Mais voilà. Donc.
Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à partie lié entre votre goût pour la musique et un goût qu'on dirait littéraire?
Sur certains projets, oui, ça c'est sûr. Hein. Sur certains projets, même sur Birds, c'est beaucoup la poésie, par exemple, un peu plus que des romans. Mais tout est lié. C'est un petit peu comme si tout se répondait aussi dans ce qu'on fait. Il y a la peinture qui est très importante, et donc c'est comme si chaque art nourrissait l'autre, le réinterprétait.
La littérature, même en moment de composer, c'est vrai que nous, on compose pas. Enfin, on est plus sur un songbook, mais ça nous arrive de composer ensemble, mais on compose aussi beaucoup toutes les deux, chacune de notre côté, et on essaye de puiser.
Oui, je pensais par exemple à un projet solo d'Homme la Nena où par exemple Cortázar avait été présent. Il y avait quelque chose de la. En tout cas, je sais plus pourquoi, peut-être que je pensais à une conversation où on avait parlé de votre lecture de Cortázar et de La Marelle, mais peut-être que c'était pas directement.
C'est complètement par hasard d'ailleurs qu'on reprend La Marelle et que La Marelle est un de mes livres préférés. Mais en fait, c'est très inconscient. Je pense tout ce qu'on lit a une influence sur la musique qu'on fait, sur les textes qu'on écrit, sur nos choix musicaux, sur nos goûts. Mais ça reste quand même pas très maîtrisé, disons.
Comme un bain, finalement, voilà, de bain artistique, puisque vous parlez de la peinture. Et en effet, vous soignez à chaque fois énormément le livre, presque le livre-disque qui vient avec les projets de Birds on the Wire. Quel est le rapport presque du projet avec la peinture ou l'histoire de la peinture et son détournement?
Alors, moi, j'ai fait des études d'art plastique. Donc, je viens, en fait, vraiment de quelque chose de visuel, et qui était très centré à l'époque de mes études sur l'art contemporain et la vidéo. Et j'ai eu comme à un moment un peu, pas un dégoût, mais une fatigue de ça. Et je me suis retournée vers la peinture. Et c'est vrai que j'avais un grand-père qui était très collectionneur. Et je sais pas. Et il y a un moment, j'ai eu besoin de retourner dans les musées pour voir de la peinture. Et il se trouve que ma meilleure amie, qui est aussi iconographe, on avait ce rapport-là où on s'envoyait des cartes postales de curiosité peinte, voilà. Et donc, il y a quelque chose, à un moment, qui est arrivé quand on a créé le projet. On a
The Birds on the Wire.
On a eu envie, toutes les trois, d'essayer de créer une identité visuelle qui soit un peu différente de ce que moi j'avais fait jusque-là auparavant, de ce que Dom avait fait jusque-là auparavant, et qui soit vraiment, c'était un choix. Donc, elle nous envoyait des propositions par rapport aux chansons qu'on lui envoyait. Elle nous envoyait des propositions. Elle disait, bon, alors voilà, pour telle chanson, ça pourrait réinterpréter ça. Est-ce que ça vous... Voilà. Et donc, comme ça, en discussion, en dialogue, C'est comme ça qu'on choisit du coup les peintures qui sont dans notre livret.
Et de la même manière que musicalement vous réinterprétez tout un répertoire musical, il y a tout un jeu sur la réinterprétation d'une iconographie de peinture qui en effet raconte presque une histoire. Enfin, Birds on the Wire, maintenant ça vient aussi avec ces images-là. Et pour qui a eu l'immense plaisir de vous voir jouer au milieu du musée du Louvre à Paris, il y avait une sorte comme ça des tourdissement de beauté qui était, où d'un seul coup, ce qu'on avait pu tenir dans les mains, en songbook, en album, prenait des dimensions esthétiques fabuleuses. Peut-être pour parler de ce projet-là, Nuées Ardentes, et revenir à Anna de Noailles, qu'est-ce qui vous a porté là-dessus? Moi, je me rappelle justement dans ce concert au Louvre, avoir pleuré toutes les larmes de mon corps sur la jeunesse des morts et la manière dont ça pouvait résonner avec le temps présent à ce moment-là. Est-ce que c'est ce poème d'Anna de Noailles qui vous a mis sur la piste? Comment ça s'est passé?
Je pense que... En fait, on a découvert ce poème en 2018 et c'était la première fois qu'on composait ensemble. Enfin, on s'est échangé beaucoup de poèmes, on essayait de trouver comme disait Rosemary, des textes de femmes qui parlaient de la guerre.
De la guerre spécifiquement?
C'est arrivé aussi parce que c'était le
centenaire,
de l'armistice. Et du coup, on avait envie de donner, de proposer une vision de femmes qui sont moins mises en avant. Mm-hmm. Maintenant, c'est un peu plus considéré, on va dire, en ce moment. Il y a quelque chose qui bouge un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai que...
Donc on trouve
ce poème.
Enfin, on a une sorte d'évidence. On le trouve très musical, en fait, dans son écriture. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'on a composé ensemble. Et on a fait la chanson très rapidement. Oui. Enfin, je sais pas, on s'est assis, on a joué.
En 20 minutes, la chanson était composée.
C'était vraiment bizarre, quoi.
Ouais. Il y avait une évidence, quoi.
Donc on l'a composé et puis on s'est dit que ce serait super d'avoir une chorale d'enfants avec. Enfin, je sais pas, on a eu une idée musicale, une sorte de vision musicale. On a fait une sorte de petit film avec une chorale d'enfants à l'époque qui est très beau. Où on est dans la forêt. Enfin bref, on a mis un peu en scène la chanson et par la suite des choses, on s'est aperçu qu'on avait un répertoire qui tournait beaucoup autour de l'adolescence sous différents angles. Et est-ce que c'est un hasard? Je sais pas. Peut-être qu'on s'est pas aperçu et que cette chanson nous a un peu mise sur cette piste-là.
Mais parce que ensuite, comment vous procédez à partir de quelque chose qui bruisse, d'une thématique qui bruisse, vous allez chercher d'autres chansons?
En fait, il n'y avait pas de chansons préétablies au départ sur ce disque-là. On s'est rendu compte au bout d'un certain temps qu'il y avait beaucoup de chansons soit qui parlaient d'adolescence, soit qui étaient des chansons qu'on avait écoutées en étant adolescente. Donc il y avait peut-être quelque chose
à tirer
justement là-dedans.
C'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps entre un disque et un autre et que notre répertoire il évolue tout le temps. Donc en vrai, là, sur ce disque, il y a 15 chansons, mais on en avait 35, 38, je sais même plus. Et au fur et à mesure, il y en a qui restent, il y en a qui partent. Et dans celles qu'on a retenues, je sais pas, les choses se font. C'est toujours un peu comme ça, je trouve, les disques. On fait de façon un peu inconsciente les choses. Et puis finalement, à un moment, on a un déclic, on trouve
image,
un fil
quoi.
Rouge. Et tout d'un coup, les choses s'imbriquent et ça fait sens, quoi.
Et on trouvait ce titre Nuées Ardentes, qui a donc un terme emprunté aussi à la volcanologie, de ces fumées qui sont tout le temps mouvantes, et un petit peu comme l'adolescence en fait, qui est un moment, un passage qui n'est jamais en arrêt, quoi, qui est toujours en train d'avancer, d'évoluer, et voilà. Et qui se transforme, surtout, qui se métamorphose.
Par ailleurs, vous disiez, Dom Lanena, est-ce que c'est un hasard que surgisse la jeunesse et la vitalité de la jeunesse? Moi, je vous avoue qu'en écoutant ce titre la première fois, et alors que le conflit à Gaza et les tueries étaient perpétuelles à Gaza, et qu'il y avait eu le 7 octobre 2023, et tous les jeunes morts du moment, il y avait quelque chose de la mort qui était tellement omniprésente de partout qu'en effet, on entendait cette chanson et ce poème écrit juste après la fin de la Première Guerre mondiale avec beaucoup de gravité. On l'écoute.
Le printemps appartient à ceux qui lui ressemblent. adolescents animés par l'orgueil, à ceux dont le plaisir, le rire, le bel œil ignore qu'on vieillit, qu'on regrette et qu'on tremble. Oh, guerrière nature, où sont ces jeunes gens? Quel est ton désespoir lorsque saigne et chancelle la jeunesse qui seule, fière et naturelle, et brille dans l'azur comme un lingot d'argent? Ces enfants bondissants partaient contents de plaire au devoir, à l'honneur, à l'immense atmosphère. Signaux humains brûlant sur les sommets, ces enfants bondissant partaient contents de pleurs. Ils dorment à présent saccagés dans la terre qui fera jaillir de à ceux qui lui ressemblent, aux corps adolescents animés par l'orgueil, à ceux dont le plaisir, le rire, le bel oeil ignore qu'on vieillit, qu'on regrette et qu'on qui seule est fière et naturelle et brille dans l'azur comme un lingot d'argent. Ces enfants bondissants partaient contents de pleurs au devoir, à l'honneur, à l'immense atmosphère. Aux grands signaux humains brûlant sur les sommets, partaient contents de pleurs. Ils dorment à présent saccagés dans la terre qui fera jaillir de ses rêves en moins de terre. Songeons le front baissé au glacial mystère que la
France Culture, dans la bibliothèque de Birds on a Wire. Marie Richeux.
C'est la maîtrise de Radio France dirigée par Sophie Janin qu'on entend avec vous, Dom Lanena et Rosemary Stanley pour Birds on a Wire, La jeunesse des morts, ce poème d'Anna de Noailles dont nous parlions. On va ouvrir désormais votre bibliothèque. On vous a demandé, comme à chacun et chacune de nos invités, de choisir 5 extraits. Mais là, ça réduisait encore plus le champ parce que vous êtes 2. Du coup, vous vous êtes divisé la tâche, 3 plus 2. Dire quand même que dans ce livre-album, presque, qu'on tient entre nos mains, la première citation, c'est Paul Éluard. Et puis à la fin, on est chez Victor Hugo, donc on est aussi encadré par de la littérature. Victor Hugo, c'est le premier choix vers lequel vous vous êtes porté avec L'homme qui rit. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot avant d'en lire un extrait, Rosemary Stanley?
Alors, L'homme qui rit, c'est vraiment un roman extraordinaire, merveilleux. Il y a pas, c'est difficile de trouver un adjectif qualificatif parce que c'est tellement immense, tellement foisonnant. La langue, les personnages, le vocabulaire, l'histoire, les détails. C'est un peu un livre monstre, en fait. Hein.
Vous vous souvenez de quand vous le découvrez?
Oui, alors non. Je me souviens de moments, mais je saurais pas dire exactement à quel âge. Mmh. Je pense que c'est à, entre 25 et 30 ans. Je pense que je suis sur la route, voilà, à peu près, mais, et voilà.
Et pourquoi vous y avez repensé à ce moment-là? Parce que c'est vraiment une des lectures très, très marquantes dans votre parcours?
Oui, ben, en fait, je suis fascinée par la qualité de la langue, du vocabulaire. Enfin, c'est un tout, c'est un savoir tellement encyclopédique qu'à chaque fois qu'on le lit, on se dit, ah tiens, c'est vrai, je sais plus ce que ça veut dire ça, mais qui il est et de qui il parle. Il y a ça, mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi juste le roman et l'histoire qui est assez incroyable et touchante de ce petit garçon qui a été mutilé, qui trouve un bébé dans la neige et que ce personnage de Ursus va recueillir et voilà, et si, je raconte pas, mais
vous racontez pas, mais vous nous lisez un extrait.
Oui,
allez.
Ursus et Homo étaient liés d'une amitié étroite. Ursus était un homme, Homo était un loup. Leurs humeurs s'étaient convenues, c'était l'homme qui avait baptisé le loup. Probablement, il s'était aussi choisi lui-même son nom. Ayant trouvé Ursus bon pour lui, il avait trouvé Homo bon pour la bête. L'association de cet homme et de ce loup profitait aux foires, aux fêtes de paroisse, aux coins de rue où les passants s'attroupent et aux besoins qu'éprouve partout le peuple d'écouter des sornettes et d'acheter de l'or vietan. Ce loup, docile et gracieusement subalterne, était agréable à la foule. Voir des apprivoisements est une chose qui plaît. Notre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés de la domestication. C'est ce qui fait qu'il y a tant de gens sur le passage des cortèges royaux. Ursus et Homo allaient de carrefour en carrefour, des places publiques d'Aberystwyth aux places publiques de Yedbourg, de pays en pays, de comté en comté, de ville en ville. Un marché épuisé, ils passaient à l'autre. Ursus habitait une cahute roulante qu'Homo, suffisamment civilisé, traînait le jour et gardait la nuit. Dans les routes difficiles, dans les montées, quand il y avait trop d'ornières et trop de boue, l'homme se bouclait la bricole au cou et tirait fraternellement, côte à côte avec le loup. Ils avaient ainsi vieilli ensemble, ils campaient l'aventure dans une friche, dans une clairière, dans la patte d'oie d'un entrecroisement de routes, à l'entrée des hameaux, aux portes des bourgs, dans les halles, dans les mailles publiques, sur la lisière des parcs, sur les parvis d'églises. Quand la carriole s'arrêtait dans quelques champs de foire, quand les commères accouraient béantes, quand les curieux faisaient cercle, Ursus pérorait, Homo approuvait. Homo, une sébile dans la gueule, faisait poliment la quête dans l'assistance. Ils gagnaient leur vie. Le loup était lettré, l'homme aussi. Le loup avait été dressé par l'homme, ou s'était dressé tout seul, à diverses gentillesses de loup qui contribuaient à la recette. Surtout, ne dégénère pas en homme, lui disait son ami. Le loup ne mordait jamais, l'homme quelquefois.
Vous avez choisi le début de L'homme qui rit de Victor Hugo, Rosemary Stanley, et ce duo-là un peu particulier de l'homme et de l'animal, pour une raison particulière?
Alors, bah, d'abord, c'est quelque chose d'assez original, je trouve. C'est quelque chose qu'on ne voit plus trop, quoique maintenant le loup est assez à la mode comme animal domestique, puisque les loups reviennent.
Pas tout à fait domestiqué encore?
Non, pas complètement, non. Non, je trouve qu'il a des formules incroyables et je trouve qu'on arrive à il nous permet de rentrer dans une histoire très particulière, quoi, très originale. Je trouve qu'on est tout de suite dans un univers.
Mais c'est marrant parce qu'en écoutant cet extrait, et où ils vont quand même de foire en foire avec l'idée de se montrer, d'être payé pour se montrer, je me suis dit que ça racontait aussi un rapport au spectacle. Et je me demandais quel rapport vous avez l'une et l'autre avec cet exercice-là, de jouer devant du public depuis des années maintenant, ça fait tellement longtemps que vous le faites, de vous produire comme ça. Alors certes, vous n'êtes pas le loup d'un homme qui vous aurait dressé, mais n'empêche qu'il y a cette idée-là d'assumer cette monstration. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ?
On apprend à l'aimer.
Ouais.
On n'a plus vraiment le choix. Moi, c'est quelque chose qui a été pas forcément évident au départ. Même, je me cachais, je pense, derrière les musiciens. J'avais peur, il y avait une sorte de timidité. Puis à un moment, en fait, à force de faire, il y a quelque chose qui devient très naturel et quelque chose qu'on
s'approprie.
Qu'on s'approprie et aussi un peu comme une drogue quand même, dont on a du mal à se passer au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on pourrait se passer de la tournée, on pourrait se passer du voyage, de l'attente, mais par contre
de ce moment-là,
ce moment sur scène, une forme de pouvoir aussi sur, c'est une forme de pouvoir aussi qu'on a sur les spectateurs, un moment tout d'un coup.
Ouais,
incroyable, ou de silence, où on vous écoute. Voilà, je sais pas, il n'y a pas tant que ça de moments dans la vie où c'est le cas.
Non, et puis il y a des moments, il y a des concerts qui sont plus incroyables que d'autres, parfois quand on s'y attend pas du tout, où nous-mêmes, on est avant le concert, on a l'impression de.
Je sais pas, moins bien luné, d'être plus fatigué.
En fait, parfois, il y a des connexions qui se font comme ça, de façon naturelle avec le public. Qui je sais pas, c'est comme une vague d'énergie, une vague de joie, de courage, je sais pas.
Mais ça vous porte.
C'est vraiment très très puissant, quoi.
On a déjà dit son nom, Julio Cortázar, auteur qui est né en 1914, la Première Guerre mondiale encore, mort en 1984. Vous avez choisi Dom la Nena, un texte qui, dans la traduction française, s'appelle Chronope et fameux. La traduction française, pour la première fois, c'était en 1977, traduit de l'espagnol argentin par Laure Guy Bataillon. Pourquoi vous avez choisi ce texte de Cortázar ? Vous avez dit qu'il y avait tout Cortázar dans votre bibliothèque.
Oui, c'est vrai que j'ai lu tout Cortázar et j'ai tout lu d'un coup. J'étais un peu monomaniaque là-dessus et un peu comme Rosemary avec Victor Hugo. J'ai découvert à 13-14 ans Cortázar et j'ai frôlé le décrochage scolaire parce que je ne pouvais plus faire autre chose que de lire Cortázar. Vraiment, c'est devenu une obsession. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment, je ne sais pas, compris le plaisir profond de la lecture, quoi, vraiment de
avec lui, avec son œuvre.
Ouais. Donc c'était pas évident de choisir, mais ce livre-là est quand même très drôle et justement je suis tombée sur ce truc des voyages et nous qui sommes tout le temps sur la route, je me suis dit que c'était.
Alors on vous écoute dans cet extrait.
Quand les fameux vont en voyage, voici ce qu'ils ont coutume de faire s'ils passent la nuit dans une ville. L'un d'eux va à l'hôtel et vérifie soupçonneusement les prix, la qualité des draps et la couleur des tapis. Un autre se transporte jusqu'au commissariat et dresse acte des meubles et immeubles des trois fameux, ainsi que du contenu de leurs valises. Un troisième, enfin, va à l'hôpital et recopie la liste des médecins de garde avec leurs spécialités. Ces précautions prises, les voyageurs se retrouvent sur la grande place de la ville, se communiquent leurs observations et entrent dans un café pour boire l'apéritif. Mais avant, ils se prennent par la main et dansent en rond. Cette danse reçoit le nom de jubilation des fameux. Quand les chronopes partent en voyage, ils trouvent les hôtels bondés, les trains déjà partis, il pleut à cris, et les taxis ne veulent pas les prendre ou réclament des sommes exorbitantes. Les chronopes ne se décourent. Pardon.
Tellement, tellement c'est drôle.
Mais c'est parce que je nous vois dans des situations comme ça. Bref.
Pardon. Alors on reprend.
Les chronopes ne se découragent pas pour si peu, car ils croient fermement que ces choses-là arrivent à tout le monde. Et à l'heure de dormir, ils se disent l'un à l'autre, la belle ville, la très belle ville. Et ils rêvent toute la nuit que dans la ville, il y a de grandes fêtes et qu'ils y sont invités. Le lendemain, ils se lèvent très contents et c'est ainsi que les chronopes voyagent. Les espérances sédentaires se laissent voyager par les choses et les gens. Elles sont comme les statues qu'il faut aller voir puisqu'elles ne se dérangent pas.
un extrait de ce livre de Julio Cortázar, Chronope et Fameux, où, en gros, le monde se diviserait entre deux grandes catégories d'humains, les chronopes, désordonnés et tièdes, et les fameux, des bourgeois très attachés aux conventions.
Et les espérances qui sont influencées par les deux, qui savent pas trop ce qu'ils sont.
Et vous y voyez, outre le plaisir de lecture, Dom Lanena, un autoportrait de vous en tournée de musicienne.
Là, il y a deux, trois choses dans lesquelles on se reconnaît assez facilement, oui. Comment
vous avez découvert la littérature de Cortázar?
Eh ben, alors, mes parents avaient tous ces livres, mais je les ai pas du tout, j'ai pas du tout touché à ceux-là. Mais quand j'étais à Buenos Aires, donc, vers mes 13, 14 ans, j'ai eu une période, tiens, où je lisais le journal. Et il y avait un abonnement de livres de littérature argentine. Et donc, toutes les semaines, il y avait un livre de Cortázar. Il y avait l'intégrale de Cortázar comme ça. Et donc, j'ai pris cet abonnement et je suis devenue vraiment dingo. Je pense que aussi par le fait que lui a très longtemps habité à Paris, il mélange beaucoup les deux langues, le français et l'espagnol. Il y a un vrai jeu dans des mots, en fait. Il joue avec les mots, il joue avec la langue. C'était aussi le moment où j'essayais de maîtriser et d'approfondir aussi l'espagnol que j'ai appris de façon, disons, un peu autodidacte. Je suis arrivée en Argentine et il fallait que je parle espagnol. Donc c'est passé aussi un peu par la littérature. Et voilà.
Et on vous entendait rire là et ne pas pouvoir vous empêcher de rire. Ça fait partie du plaisir de lecture de Julio Cortázar?
Oui, et d'ailleurs, c'est marrant que ça m'arrive parce que j'en parlais avec ma mère avant de venir. Je lui disais que j'allais vous lire cet extrait et elle me dit « Oh, quand j'ai découvert ce livre, je me baladais dans la rue et je riais toute seule. Ouais. » Et
donc,
c'est vraiment
donc
ça.
Donc, hommage à ce plaisir-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive souvent de rire, Rosemary Sandler, en lisant?
Ah oui, oui.
Ah non, mais parfois je l'entends d'une chambre. On est à l'hôtel et je l'entends dans la chambre d'à côté exploser de rire après un livre.
Ça m'arrive. Alors, le plus récemment, c'était Proust, justement, du côté de chez soi.
Ah oui.
J'ai beaucoup ri, ouais. J'étais en Inde, je crois que j'ai empêché pas mal de gens de dormir.
Proust en Inde, c'est quand même assez chic.
Voilà. Oui, très chic. Je crois que j'ai empêché pas mal de gens de dormir à cause de ça, mais voilà.
On va continuer d'élargir la géographie de cette bibliothèque grâce à vous, Rosemary Sandler. C'est vers un auteur grec, Alexandre Papadiamantis, 1851-1911. Vous avez choisi un texte qui s'appelle « Les petites filles et la mort ». Il me semble que dans « Nuées ardentes », il y a aussi une compositrice grecque qui est invitée au bal. Voilà. Est-ce que vous avez un lien particulier avec la production artistique grecque ou pas spécialement?
Alors si, en fait, j'ai eu une période où j'étais vraiment, bon, toujours, hein, je suis très 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 amoureuse de la Grèce. J'ai découvert la Grèce très tardivement, je devais avoir une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je me demande pourquoi j'étais allée voyager si loin toute ma jeunesse, alors que je trouvais qu'il y avait un dépaysement incroyable, alors que c'était vraiment en Europe, quoi. Et du coup, j'ai voulu tout embrasser, les gens, la nourriture, le pays, la littérature, la musique. Voilà, j'aime beaucoup le Rebetiko aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses incroyables.
Et alors, ce Alexandre Papadiamantis?
Alors, je les découvre assez tardivement. C'est sur les conseils, justement, d'une amie qui m'avait conseillé de lire ce livre. Elle m'a dit, ce texte est quand même très étrange, très incroyable. Il faut que tu le lises. Donc, je l'ai lu, effectivement. Et donc, c'est l'histoire d'une vieille femme, un peu, une grand-mère, voilà, qui va, en fait, tuer les petites filles. Et au début, en fait, en lisant, j'avais une forme de répulsion par rapport à une
réaction. C'est d'ailleurs Meurtrière, le titre original.
Oui. Une forme de répulsion par rapport au livre et à l'histoire. Et en même temps, je pouvais pas m'empêcher d'essayer de comprendre pourquoi et comment. Et en fait, c'est un thème très intéressant, très tabou, l'infanticide, du pourquoi cette femme va tuer des petites filles. Enfin, ouais, particulièrement des petites filles. Bah, c'est aussi parce que, d'abord, on est au 19e siècle. Dans un endroit très reculé en Grèce, en pleine campagne, sur une île. Et en fait, elle a eu 7 enfants, mais on peut imaginer qu'avoir 7 enfants au 19e, ça veut dire 7 enfants qui ont survécu. Mmh. Donc peut-être qu'en fait, elle en a eu 14. Donc il y a un rapport à la maternité, je pense, qui est très différent d'aujourd'hui, qui en général est une maternité heureuse et choisie. Et ensuite, en fait, elle a eu une vie que de servitude. C'est-à-dire qu'elle a servi ses parents, elle a servi son mari, puis ensuite elle sert ses enfants, ensuite ses petits-enfants. Et je pense qu'à un moment, il lui traverse l'esprit de dire « au moins, celles-ci n'auront pas la vie que j'ai eue ». Voilà. Donc elle les supprime, souvent c'est des bébés ou des petites filles, et donc elle leur enlève la vie pour les
empêcher, enlever cette vie-là.
Leur enlever cette vie-là. Et après, ben, évidemment, ça peut être rapproché de pas mal de livres. Il y a d'autres exemples en littérature. Hein. Moi, je pense aussi à Virginie Linhart qui avait écrit Le jour où mon père s'est tué, qui est un exemple où elle raconte en fait que sa mère, pour lui éviter les camps de concentration, a manqué de le tuer. Il y a aussi le livre magnifique de Toni Morrison, Beloved, qui est aussi un infanticide, c'est-à-dire qu'elle tue sa fille adorée pour lui éviter l'esclavage. Mmh. Et donc, à chaque fois, on se rend compte que c'est aussi dans des situations très limites.
De désespoir absolu.
De désespoir, ou aussi un peu à la limite de la folie, on ne sait pas trop. Je pense aussi à une chanson que tout le monde connaît un peu, qui s'appelle Black Betty, mais une version d'Ironhead Baker qui raconte l'histoire, justement... On a ici la version de Ram Jam. En fait, c'est pas du tout un texte drôle du tout, puisque c'est une femme qui se retrouve dans un pénitentiaire aux États-Unis. C'est une femme noire. Et on lui demande d'où elle vient, ce qu'elle a fait, pourquoi elle se retrouve là. Et elle dit, quel est ton numéro? Donc, elle a une immatriculation qui lui a été gravée sur la peau. Et elle se retrouve là parce qu'elle a enterré son bébé. Mais le bébé avait les yeux bleus. Et donc, c'était sûrement le capitaine, donc le contremaître. Donc, c'est un bébé issu d'un viol. Est-ce qu'elle ne supportait pas de garder cet enfant? Est-ce qu'elle ne voulait pas qu'il vive les mêmes choses qu'elle? Voilà. En fait, c'est toujours, à chaque fois, des situations qui sont quand même, voilà, à la limite
De la limite.
De la limite.
On écoute un extrait de ce texte, Les petites filles et la mort, traduit du grec par Michel Saunier.
À demi allongée au coin du feu, les paupières closes, laissant reposer sa tête contre le jambage, le montant, comme on dit là-bas, de la cheminée, la vieille Radoula, que l'on appelait plus souvent Yanou la Franque, ne dormait pas, mais faisait le sacrifice de son sommeil auprès du berceau de sa petite fille malade. La couchée, la mère du nouveau-né souffrant, s'était endormie un peu plus tôt sur son lit misérable posé à même le sol. La petite lampe à huile suspendue sous le manteau de la cheminée ne donnait qu'une flamme vacillante. Elle répandait plus d'ombre que de lumière sur les meubles rares et très pauvres qui la nuit paraissaient plus propres et faisaient meilleure figure. Radoula, que l'on appelait la Franque ou encore Franco Yanou, approchait de la soixantaine. C'était une femme solidement bâtie, aux traits massifs, à l'allure masculine, avec deux petites pointes de moustache au coin des lèvres. Et là, à force de réfléchir et de rappeler en son esprit son existence entière, elle découvrait qu'elle n'avait jamais fait que vivre dans la servitude. Jeune fille, elle avait été la domestique de ses parents. Une fois mariée, elle était devenue l'esclave de son mari. Et pourtant, par l'effet de son propre caractère et de la faiblesse de l'autre, elle était en même temps sa tutrice. Quand ses enfants étaient nés, elle s'était faite leur servante, et maintenant qu'ils avaient à leur tour des enfants, voici qu'elle se retrouvait asservie à ses petits-enfants. La fillette était née 2 semaines plus tôt. Sa mère avait eu des couches pénibles. C'était elle qui dormait là, sur le lit, la fille aînée de Franco Yanou, Del Caro. On s'était hâté de baptiser le nouveau-né le 10e jour parce qu'il était dangereusement malade. Il souffrait d'une mauvaise toux, d'une coqueluche accompagnée d'un état presque convulsif. Une fois baptisé, il avait paru aller un peu mieux le premier soir et la toux s'était calmée pour un temps. Pendant des nuits et des nuits, Franco Yanou n'avait pas accordé de sommeil à ses yeux ni permis à ses paupières de s'apesantir. Elle veillait auprès de la petite créature qui était bien loin d'imaginer combien de peines elle donnait aux autres et combien de tourments elle allait à son tour endurer si elle survivait. Elle n'était pas non plus en état de sentir, affleurer en elle cette question que son aïeule formulait en secret au fond d'elle-même. « Mon Dieu, pourquoi faut-il que celle-là encore soit venue au monde ?»
C'est vers un autre portrait de femme qu'on va se tourner finalement, d'une autre sorte, avec votre nouveau choix, Dom la Nena. C'est un texte de Jorge Amado. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot avant qu'on se lance
Oui,
dans
alors
l'écoute
Jorge Amado, donc pour moi, c'est le plus grand écrivain brésilien. Et il a écrit donc ce livre, Gabriela Cravo e Canela.
Girofle et cannelle.
Voilà. mais plein d'autres qui sont assez, enfin, qui pour la première fois, en fait, dans la littérature brésilienne, déjà mettaient en avant les femmes. C'est toujours beaucoup de Dona Flor et ses deux maris. Tieta, il a énormément de livres où c'est des héroïnes.
Et on est en 1958.
Voilà, oui. Et qui sont des femmes, souvent, qui souffrent beaucoup, mais qui sont très courageuses et qui courent après leur liberté, disons. Et surtout, je trouve que ces romans sont toujours, pour moi, qui vis loin du Brésil, c'est une sorte de portrait de la société brésilienne. Gabriela, ça se passe en 1920 dans un petit village qui s'appelle Ilhéus, près de Salvador, à Bahia. Et en fait, moi, personnellement, en tant que brésilienne, ça m'aide à comprendre un peu d'où je viens et comment s'est créée cette société brésilienne qui est assez particulière. Ça a été un des premiers à mettre dans un même livre les Noirs, les Blancs, les Métis, la bourgeoisie.
Des classes sociales moins aisées.
Mettre en valeur toute la culture afro-brésilienne, les travailleurs dans les champs de cacao.
C'est une histoire qui vous était transmise, vous, enfant, adolescente?
Non, dans quel sens?
C'est-à-dire qu'on vous a raconté ça?
Pas du tout. Non, en fait, moi, j'ai vécu au Brésil jusqu'à 8 ans. Et ensuite, j'ai pas vraiment eu... Après ça, j'ai eu 5-6 mois de scolarité brésilienne. J'ai pas vraiment étudié l'histoire du Brésil de façon scolaire. J'ai surtout appris avec les livres et en discutant un peu avec mes parents, bien sûr. Mais c'est comme ça que je me suis construit mon pays, en fait. Et que j'essaye de comprendre un peu comment ça se fait qu'il y a certaines choses qui se passent au Brésil. C'est une société vraiment particulière, très très machiste. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il dénonce aussi beaucoup dans ses livres. Très très conservatrice. Gabriela, c'est en 1920. On retrouve encore tellement de choses présentes dans la société d'aujourd'hui brésilienne. C'est un peu désolant, c'est un peu désespérant même. Mais en même temps, il met aussi en valeur toute la beauté du pays, toute la culture. C'est très, très musical. C'est un très long livre, mais avant chaque chapitre, il y a une chanson, des paroles de chanson.
Qui ouvre en exergue,
voilà,
chaque chapitre.
Chacun se fait sa chanson. Gabriela, ça a inspiré beaucoup de chansons. Je pense à une chanson de Tom Jobim qui est magnifique.
Et qui vient directement de ce texte-là.
Ah oui, oui. Non, il a écrit des paroles lui-même.
Oui, mais en tout cas, Gabriela, c'est en parlant de ce personnage-là.
Ah oui, c'est Gabriela Cravo Canela, ouais. Il y a eu des films, des feuilletons. Enfin, c'est vraiment.
C'est un personnage iconique, y compris dans la culture
brésilienne.
Absolument.
Ouais, ouais, ouais.
En 1971, il a été traduit du brésilien par Georges Boisvert. On vous écoute, Gabriela, en français, Dom la Nena.
Gabriela avec une fleur. Sur les places d'Ilhéus, les fleurs s'épanouissaient dans les massifs. Roses, chrysanthèmes, dahlias, marguerites, pâquerettes. Les corolles des dames d'onzeur s'ouvraient au milieu du gazon, aussi ponctuelles que l'horloge de l'intendance, et parsemaient de points rouges le vert des pelouses. Du côté de Malhado, au milieu des fourrés, dans les bosquets humides d'Union et de Conquista, éclataient des orchidées fantastiques. Mais le parfum qui s'élevait de la ville et qui la submergeait ne se dégageait ni des jardins, ni des bosquets, ni des fleurs cultivées, ni des orchidées sauvages. Il venait des entrepôts, du quai et des docks. C'était le parfum des grains de cacao séchés, violent au point d'entêter les gens venus d'ailleurs, mais si familier aux habitants d'Iliaos que ceux-ci ne le sentaient plus. Il flottait au-dessus de la ville, du fleuve et de la mer. Dans les plantations, les cabosses de cacao arrivaient à maturité, répandant sur le paysage toute la gamme des jaunes et dorant l'atmosphère. Le temps de la cueillette approchait. De mémoire d'homme, jamais on n'avait vu une récolte aussi abondante. Gabriella préparait un énorme plateau de friandises et un autre encore plus grand d'acarajé, d'abara, de croquettes de morue et de beignets. Le négrillon Twiska, aspirant la fumée d'un mégot, attendait tout en lui racontant les potins du bar ou en l'entretenant de sujets futiles qui l'intéressaient plus particulièrement. Les 10 paires de souliers de Mungingo Falcão, les parties de football sur la plage, un vol commis dans un magasin de tissus, l'annonce de l'arrivée prochaine du grand cirque balkanique avec éléphants, girafes, chameaux, lions et tigres.
On entendait Dom Lanena évoquer cette figure de femme peinte en 1958 par Jorge Amado. Et juste avant, finalement, Rosemary Stanley, vous parlez de la manière dont Papa Diamantis peint lui aussi en fait une figure de femme archétypale, infanticide, mais pour dire plein d'autres choses de la condition féminine. Est-ce que l'une et l'autre, vous avez trouvé dans la littérature des manières de vous penser, vous, de penser les êtres que vous étiez de genre féminin dans le monde? Est-ce que c'est des outils? Les textes littéraires? C'est une petite question. Toute petite question, fin d'émission, comme ça, petite question sympa.
Certainement.
Je pense aussi au texte avec lequel on va terminer, oui. Sur la figure de la sorcière.
C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est intéressant, c'est à un moment, comment la femme est représentée. Là, moi, par exemple, j'ai choisi des textes qui sont du 19e, donc qui sont particulièrement modernes, je pense, pour leur époque. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'évolution de comment la femme est représentée. Et que je pense que la littérature aide aussi...
À bouger ses curseurs.
Voilà, à changer les mentalités d'une certaine façon. Quand on lit qu'une femme est capable... Ou, j'ai pas d'exemple, en fait, mais le fait d'inventer, de créer des personnages qui sont justement... qui sont libres... donne peut-être envie aux femmes à un moment de se libérer aussi. Je sais pas, c'est une possibilité, mais en tout cas, c'est vrai que, par exemple, sur la sorcière, c'est vrai que moi...
Donc c'est un texte de Michelet que vous avez choisi pour terminer, un texte de 1862.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est ça qui m'a... Parce que la sorcière, évidemment, c'est une création, c'est un personnage créé... par Michelet, inventé, on est entre le roman, la poésie, l'essai historique, on sait pas trop où on est, donc c'est un texte un peu bizarre, et c'est surtout, le texte est en deux parties, il y a une partie historique, et c'est la première partie que je trouve vraiment incroyable, et c'est un personnage positif. En fait, c'est un personnage qui est moins que rien, puisque c'est la femme du serf, c'est l'esclave de l'esclave, en fait. Ça se passe pendant le Moyen-Âge. Et il dresse un portrait de femme sur 300 ans. Et c'est comme une essence de sorcière, ou comme une huile essentielle de sorcière qu'il arrive à créer. Et vraiment, ce personnage, elle s'intéresse à tout ce dont la religion ne s'intéresse pas. La religion s'intéresse aux âmes, à sauver les âmes, et surtout, quelqu'un a attrapé une maladie, eh bien, c'est parce qu'il avait péché, c'est le résultat d'un péché. Elle, au contraire, elle va soigner, consoler, chercher aussi. Elle va s'intéresser au corps, elle va s'intéresser aux herbes de la digestion, elle va s'intéresser à la matière. Et justement, Michelet présente ça comme quelque chose de positif et qui est peut-être l'ancêtre de la une forme d'ancêtre de la médecine aussi aujourd'hui, qui est transmise non pas par les écrits, mais de façon orale.
On écoute un extrait de La sorcière de Jules Michelet, 1862.
« Le clergé n'a pas assez de bûchers, le peuple assez d'injures, l'enfant assez de pierres contre l'infortuné. Le poète, aussi enfant, lui lance une autre pierre, plus cruelle pour une femme. Il suppose gratuitement qu'elle était toujours laide et vieille. Au mot sorcière, on voit les affreuses vieilles de Macbeth. Mais leurs cruels procès apprennent le contraire. Beaucoup périrent précisément parce qu'elles étaient jeunes et belles. La sibylle prédisait le sort et la sorcière le fait. C'est la grande, la vraie différence. Elle évoque, elle conjure, opère la destinée. Ce n'est pas la Cassandre antique qui voyait si bien l'avenir, le déplorait et l'attendait. Celle-ci crée cet avenir, plus que Circé, plus que Médée. Elle a en main la baguette du miracle naturel, et pour aide et sœur, la nature. Elle a déjà des traits du Prométhée moderne. En elle commence l'industrie, surtout l'industrie souveraine qui guérit, refait l'homme. Au rebours de la Sibylle qui semblait regarder l'aurore, elle regarde le couchant. Mais justement, ce couchant sombre donne, longtemps avant l'aurore, comme il arrive au pic des Alpes, une aube anticipée du jour. Le prêtre entrevoit bien que le péril, l'ennemi, la rivalité redoutable, est dans celle qu'il fait semblant de mépriser, la prêtresse de la nature. Des dieux anciens, elle a conçu des dieux. Auprès du Satan du passé, on voit en elle poindre un Satan de l'avenir. L'unique médecin du peuple pendant 1000 ans fut la sorcière. Les empereurs, les rois, les papes, les plus riches barons avaient quelques docteurs de Salerne, des morts, des juifs, mais la masse de tout état, et l'on peut dire le monde, ne consultait que la saga ou sage-femme. Si elle ne guérissait, on l'injuriait, on l'appelait sorcière. Mais généralement, par un respect mêlé de crainte, on la nommait bonne dame ou belle dame, bella donna, du même nom qu'on donnait aux fées.
Saisissant ce texte, en effet. La fin, et comme vous dites, Rosemary Stanley, l'ouverture vers un Satan du futur et l'idée que c'est la médecine qui attend. Un grand merci à toutes les deux, Rosemary Stanley et Dom Lanena, d'avoir ouvert votre bibliothèque. Et longue vie à Birds on a Wire qui fait des disques qu'on peut ranger dans les bibliothèques. C'est vrai quand même, non ?
Oui, c'est aussi l'idée.
C'est vraiment l'idée d'un livre, à chaque fois un livre de chansons, un livre de peinture, un livre de poèmes. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui va aller direct. On voit la tranche qui va aller directement dans la bibliothèque. Un très grand merci à toutes les deux et on se quitte avec un nouvel extrait de votre disque.
Merci.
Un dia des fui dançar lá em pedreira na rua da colada, gostei da brincadeira. Zé Caxanga era o tocador, mas só tocava pisa na fulô. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor. Seu Serafim cochichava marvio, sou capaz de jurar que nunca vi forró melhor. Então vovó, carro na mão de vovó e disse bora meu venho.
Au son aujourd'hui, c'était Manon Houssin, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe de France Culture. Vous pouvez retrouver sur la page du Book Club l'ensemble de nos portraits de bibliothèque.
De madrugada, Zeca Caxangá disse ao dono da casa, não precisa me pagar, mas por favor, arranje outro tocador, que eu também quero. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô.